Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Vous écoutez RMC, vous êtes dans le Super Moscato Show. Oui. C'est les meilleurs moments de la saison avant notre retour dans une semaine, voilà, en direct avec toute l'équipe. Alors, si vous nous rejoignez et que vous avez raté les deux premières heures, vous pouvez podcaster.
Oui, c'est podcastable, tous les meilleurs moments.
Il y a du bon Deschamps, par exemple, à réécouter.
Il n'y a pas de risque, hein, vous tombez que sur du meilleur. Autant parfois d'un peu moyen, ça peut arriver sur une saison, mais là, ce ne sont que les meilleurs moments.
Et puis, si vous voulez en entendre encore, vous restez avec nous. Alors, les JO approchent, les JO d'hiver, c'est dans un mois et demi. Il y a Milan Cortina. Et à 100 jours des Jeux, nous étions avec les deux stars du ski alpin français, Alexis Pinturo et Clément Noël.
Alors, on était à 122 jours,
Oui, bon, mais ça, c'est pas de notre faute. Hein.
17h45.
Si le CNOSF fait son J-100 à 122 jours, c'est pas de notre
17h45,
faute.
17h45, Kikadi de très, très, très haut niveau avec Julien Beneteau. C'est de la folie. C'était le chaos, ce Kikadi. Je vous donne pas le verdict, mais c'était incroyable. Il y a eu des bras d'honneur. Il y a eu des bras d'honneur.
D'abord, nous allons parler foot, Curaçao, Haïti, Panama à la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous fatigue?
Dans la douceur tropicale de Panama City.
C'est pas gavé, on n'est pas sur la Méditerranée, il y a de l'air.
Les touristes affluent.
Estoy muy, muy feliz et orgulloso de hablar contigo, vraiment.
Depuis quelques années, le Panama a le vent en
poupe. Je suis à bloc, moi, de défiscalisation, je peux plus balancer le tunnel.
Le nombre de touristes est en hausse constante.
Tendidos.
Ce qu'il a gagné, il a gagné la Copa Libertadores.
Le pays abrite une faune et une flore exceptionnelles.
Je veux dire, la nature est tellement forte.
Il n'est pas difficile de comprendre l'attrait pour le Panama.
Les gens en sont imprégnés, ça fait une qualité de vie qui est incroyable, qui se ressent chez les gens.
Avec une telle diversité de paysages.
Contigo, vraiment, vraiment, merci beaucoup.
Copa Libertadores, c'est ça.
Même si la destination reste largement méconnue des Français.
La Coupe du Monde 2026, c'est sur RMC. Que ça se passe.
RMC, le gros débat du
sur. On n'est pas loin de j'ai arraché là.
Oui, salut au meilleur. Je dirais un vieillard.
Oui, mais tu es.
La Coupe du Monde.
D'ailleurs, justement, il faut qu'on t'en parle, Pierrot.
Oui. Arrêtez, ça se passe.
Donc, on connaît 42.
C'est un autre malheureux.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que ça?
Ouais. Rien.
Moi, je veux bien, hein. Mais Eric, il dit, c'est
pas
drôle.
Ouais, mais Eric, il rigole,
c'est
pas drôle.
Non, casser sur toi, c'est, moi, je trouve ça malade sur toi. Pas le sélectionneur national, on respecte le sélectionneur.
J'ai compris, Eric, ils sont tous fâchés entre les anciens de 93, le seul qui lui parle, c'est Deschamps.
Donc, il veut pas le perdre. Il veut pas le perdre.
Donc, on connaît 42 des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Vincent, tu l'as peut-être oublié, c'est une Coupe du Monde à 48.
Non, je l'ai pas oublié, du coup.
Que l'on va vivre au mois de juin et juillet sur RMC. Les six derniers seront connus au mois de mars suite au barrage. Il y a quatre pays européens, peut-être l'Italie, c'est pas certain. Tirage au sort le 5 décembre à Washington. Voilà les dates les prochaines sur le calendrier de la Coupe du Monde. La France va donc découvrir ses adversaires le 5 décembre et les Bleus pourraient retrouver certains adversaires inédits comme Haïti qui est qualifié, comme le Panama ou même l'île des Caraïbes, Curaçao, voire l'Irak qui est en barrage. Ces nations exotiques, c'est génial. Ou ça vous fatigue à l'avance, 32-16, ou Twitter, hashtag RMC Live. On va faire le point sur quelques-unes de ces sélections. Avec Nicolas Pelletier.
Salut les amis, salut Nicolas.
Alors, zone Afrique, il y aura une première pour le Cap-Vert, qui va devenir le plus petit pays de l'histoire de la Coupe du Monde.
Oui, on parle de la 71e nation au classement FIFA et pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert va donc participer à une Coupe du Monde. Les requins bleus ont participé à 4 des 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ils ne sont d'ailleurs pas qualifiés pour la prochaine. Le Cap-Vert est un petit pays de 4000 km² et va donc battre le record jusqu'ici détenu par le Qatar avec 11000 km². Et ça sera aussi le pays le troisième moins peuplé à participer à une Coupe du Monde derrière l'Islande et Curaçao.
Alors le Qatar qu'on va retrouver pour la deuxième fois consécutive, mais cette fois-ci ils sont passés par les qualifications. Ils n'étaient pas qualifiés direct comme il y a 4 ans. Zone Asie où on retrouve aussi des pays comme l'Ouzbékistan ou la Jordanie.
Oui, le Qatar qui participera à ce mondial. Hein, la dernière fois ils étaient qualifiés d'office en tant que pays organisateur. C'est Lopetegui, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, qui est à la tête de l'équipe. En juin dernier, la Jordanie a aussi obtenu sa qualif, la première de son histoire. noir. Et dans cette même zone de qualif, l'Ouzbékistan, 55e nation FIFA, jouera le mondial en Amérique du Nord, le premier mondial des Ouzbeks après plusieurs éliminations douloureuses au dernier tour des qualifications en Asie, notamment pour les Coupes du Monde 2006 et 2014. Voilà une première au mois de juin prochain.
Et puis dans la zone CONCACAF, on retrouvera donc Haïti. Ce ne sera pas la première participation d'Haïti. Le Panama ou encore Curaçao.
Et pour Panama aussi, ça ne sera pas la première. Ça sera la deuxième Coupe du Monde de son histoire après 2018. C'est donc une inconnue pour ce membre de la CONCACAF, assez performant ces dernières années. Haïti, de son côté, va jouer sa deuxième Coupe du Monde après 1974. Les Grenadiers ont pourtant hérité d'un groupe assez relevé, mais les hommes de Sébastien Migné ont décroché une belle qualification, notamment en s'appuyant sur un gardien bien connu en France, le gardien de Bastia, Johnny Placide, 30 ans, capitaine de la sélection et surtout leader du vestiaire. Et puis on termine avec le petit poussé, Curaçao, 82e au classement FIFA, qui s'est qualifié cette nuit pour le Mondial 2026. Cette île des Caraïbes, 156 000 habitants, ancienne colonie néerlandaise. L'île de Curaçao, autonome depuis 2010, peut compter sur des joueurs qui ont tous fait leurs armes aux Pays-Bas. Toute l'île et sa diaspora, assez nombreuses, auront les yeux rivés sur le tirage au sort de la phase de poule le 5 décembre prochain à Washington, avec la possibilité de tomber sur les Pays-Bas.
Alors, est-ce qu'un petit France-Curaçao pour démarrer la Coupe du Monde à 48, ça te plaît? Tu trouves ça sympa ou ça te fatigue, toi?
Ça rien. Bon, après, ils veulent faire plaisir à tout le monde. Je le comprends qu'ils veulent, mais sportivement, c'est nul, quoi, tu vois. Alors après, tu sais pas, politiquement, peut-être par rapport au foot, de s'élargir. Ça fait toujours plaisir quand tu vois les noms, Curaçao, Panama, tout ça, mais c'est bien quand tu vas en vacances. T'as envie d'y aller. Moi, j'y étais à Curaçao.
Bien.
J'y étais, oui, mais quand t'es au nord de l'île, tu vois le sud.
Ah, je connais pas.
Tu peux faire coucou à ton cousin qui est d'autre côté.
Oui, voilà. Donc, c'est un caillou. C'est un peu plus qu'un caillou. Il y a plus de banques que d'habitants. Là, c'est la machine à laver, mon pont.
Ah, bah oui, voilà.
C'est pas des bricoleurs, les noms des banques, c'est pas le crédit agricole, le machin.
Banque populaire.
Et donc, bon, c'est
ça. Mais c'est là que t'as passé ton week-end avec Marco Mouli.
Avec Marco Mouli.
Fallait pas le dire.
Tu sais qu'il y a un très bon conseil, Marco.
Oui,
c'est
son grand talent.
C'est mon directeur financier.
Marco Mouli, c'est l'arnaque à la taxe carbone.
Oui, c'est bien.
Lui, il faisait justement le démarchage des banques. Il était très doué.
Ah, mais là, t'as des banques. Le nom, c'est chez Popol, chez Henri, machin. Puis après, ça lave.
Tu rejettes pas ça, mais ça ne pas plus que ça, là, les petites nations.
Ce que je veux te dire, c'est exotique, mais ça ne sert à rien sportivement.
Tu vas regarder ou pas? Est-ce que tu vas jeter un coup d'œil par curiosité?
Bah, ça sert à ramener une voix au vote du président de la
ville. Voilà, c'est ça. Quand je veux être curieux, je vais voir à l'époque, quand on était petit, on allait voir la femme à la foire du trône ou la femme à barbe ou des trucs comme ça, tu vois. Mais là non, c'est sûrement sportif, ça m'intéresse pas. Si moi je cours avec Usain Bolt, ça va pas t'intéresser de regarder la compétition.
C'est sûr,
mais là c'est pareil. C'est la même différence
que moi.
Je suis désolé, sauf que toi aux Jeux Olympiques, au premier tour du 100 mètres, tu peux courir contre Bolt aussi.
Si tu
représentes la Sardaigne, par exemple, petit pays, tu représentes un petit pays, tu peux courir contre Bolt.
Bon,
c'est pas interdit.
Tout à fait.
Et ça n'empêche pas de Bolt de courir à Monaco.
Sportivement, c'est nul. Après, bon, je sais pas.
Non, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné du propos de Vincent, et je pense que Denis va tenir le même, parce que c'est le propre même de leur sport. Eux, ils veulent surtout pas que les petits pays progressent et viennent manger la laine sur des grands pays de rugby. C'est-à-dire qu'eux, au rugby, y a l'Italie, quand ils étaient nuls, la Géorgie, c'était meilleur que maintenant, mais il faut pas que la Géorgie vienne, parce que sinon, s'ils deviennent trop forts, si ils jouent, ils nous battent, ça va être terrible. Eux, ils veulent rester entre eux. S'ils ont une troisième oreille sur le front, ils sont comptables, parce que ça veut dire que le petit est bien né, tu vois. S'il a une troisième couille, je te dis pas.
Mes arguments.
Il y a mon côté socialiste qui fait que je suis content. Nous, on a la chance d'avoir un sport qui est joué dans le monde. Et avec des des joueurs qui sortent de pays improbables de plus en plus dans des championnats. Tu les vois, ces joueurs-là. Et si on avait regardé, puisqu'on parlait de la Géorgie rugby, ouais. Si tu te souviens, il y a 20 ans, la Géorgie au football, c'était rien, il n'y avait rien. Et sauf que la Géorgie, eh ben, ils faisaient les qualifications pour le championnat d'Europe, ils faisaient les qualifications pour les Coupes du Monde, et puis maintenant, ils ont une génération avec les Varachkelia, avec les, comment ils s'appellent l'autre là, qui joue à Saint-Etienne. Bon, enfin, les Mikotadze, les machins qui jouent, bon, enfin, voilà, bon, vous avez les noms, c'est trop compliqué pour moi. C'est pas grave. Mais il n'empêche que, mon côté socialiste veut.
Non, mais t'arrêtes,
c'est ce qui est beau dans le foot, c'est que c'est joué de partout. Et même sur même sur des cailloux, comme il dit Vincent. Et ces cailloux-là, quand ils participent à la Coupe du Monde, ils gagnent des sous, les petits viennent au foot, ils font de la formation, ils progressent, et un jour, eh ben, peut-être qu'ils vont sortir de la poule. Et ça, c'est la beauté du foot. Non. Et il y a des, nations. Mais... Voilà. Et après, il y a mon côté libéral, qui me dit quand même que, 48 clubs, avec cette compétition, avec tous les gros clubs, toutes les grosses, il n'y aura plus de surprises, puisque
les grandes, la compétition, Eric, tout simplement.
Mais la compétition, voilà. Elle aura lieu. Mais juste, il y aura plus de surprises de mecs qui se font éliminer au premier tour. Ouais. Tout le monde va passer à 16e. Il y aura des 16e improbables qui seront peut-être tellement déséquilibrés qu'ils seront irregardables. Sauf que, à l'arrivée, à partir des 8e de finale, les grandes nations seront là et on va se régaler. Voilà. Et donc, c'est quoi qui vous embête?
Le débat, c'est pas ça, le débat.
Qu'est-ce qui vous embête que les petits pays viennent se confronter à des grands pays, progressent et un jour peut-être se qualifient un éventuel 16e de finale. Qu'est-ce qui vous embête à ça? Voilà, dites-moi.
Merci
monsieur Léon Blum, merci.
Alors au rugby c'est encore pire parce que au rugby t'as des 100 points d'écart quand t'as des petites équipes
où là c'est au foot il y a des exploits.
C'est n'importe quoi mais il y aura des exploits avec Grasso, il y aura des exploits, il y aura aucun exploit.
Mais l'Arabie Saoudite, ils ont battu l'Argentine sur la dernière compétition, et l'Arabie Saoudite, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'était rien du tout.
On parle des petites équipes qui ont été qualifiées là, donc moi je trouve aucun intérêt sportivement parlant de voir un Brésil face à Curaçao mettre 12 buts et tu t'y retrouves pas. Je suis désolé. La Coupe du Monde, c'est toujours été un rendez-vous élitiste. C'est du sport. C'est-à-dire que c'était les meilleures nations qui se qualifiaient et tu prends pas des petites nations qui arrivent avec un petit bagage sportif pour faire plaisir. On sait très bien que c'est la politique en plus. C'est de la politique. C'est
pas obligatoirement.
Mais si, on fait voter les petits. Mais
non, un peu quand même.
Mais non, mais.
C'est un peu criard là quand même, non?
Mais c'est pas.
Mais non,
je m'y retrouve pas tout simplement parce qu'on va perdre une semaine, voire deux semaines.
Deux semaines
où on va s'ennuyer.
On est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
On va regarder les matchs.
Regarde le Costa Rica en 2018, c'était une des plus belles aventures de cette Coupe du Monde. C'était fantastique, le Costa Rica avec Navas dans les buts.
Et à Panama, c'est qui dans les buts?
Costa Rica, d'une équipe qui n'était pas trop faible. Non, mais c'était pas une équipe trop faible.
Oui, mais justement, si ces équipes.
Oui, mais Navas n'est pas trop faible. Ils ont été faibles, Denis. Oui, parce qu'ils ont participé à des.
Il faudra voir quel est leur niveau réel.
À Curaçao, le mec, le goal, c'est le mec qui fait le Père Noël en Galerie Lafayette. Le mec, non, 25,
je suis pas sûr que le Cap-Vert, Curaçao, ils peuvent rivaliser avec des grandes nations.
Oui, mais il faut peut-être voir leur niveau avant de juger.
On verra bien.
Ils sont tous dans le chapeau 4, donc ça, ce n'est qu'un match.
Oui.
Sur les trois matchs que tu joues en poule, qui est plus faible.
Si c'est pour venir prendre des 10-0, ça sert à rien.
C'est la Coupe du Monde, c'est du sport.
Oui, mais sauf que Pierrot,
on n'est pas certain qu'il soit nul. C'est ça le truc.
Sauf que Pierrot, contrairement au rugby, au foot, on a l'exemple, nous, en équipe de France, où nos premiers matchs contre l'Australie, contre je sais plus ce qu'il y a ces derniers temps, ils ont été toujours difficiles. Parce que les grandes nations qui veulent aller au bout, elles ont une autre préparation que les petites nations qui veulent faire des coups sur le premier tour, et c'est toujours un tour piège. Donc ne méprisez pas ces équipes-là, parce qu'on risque de peut-être d'être emmerdés contre eux sur les premiers matchs. Attention, alors qu'au rugby, oui, vous, c'est des sapes-poils.
Très vite,
vous, c'est des sapes-poils. C'est terrible.
Je sais
mais au fond, c'est plus des sapes-poils.
Je sais que tu rigoles, Eric. Très vite, parce qu'on a un supporter du Cap-Vert.
Je vais t'expliquer pourquoi ils ont limité, parce que il y a eu des accidents.
Oui, c'est dangereux. Mais vous, c'est dangereux.
Il y a eu des accidents, donc tu limites.
Allez, on va donner la parole à Chris, supporter du Cap-Vert, qui va vivre un rêve, puisque son petit pays est qualifié pour la Coupe du Monde. Salut, Chris.
Salut, Chris. Césaria et Vora.
Salut, Pierrot. Salut, les gars.
Merci. Le fils de Césaria et Vora. Comment ça va?
Supporter du Cap-Vert. Chris,
supporter du Cap-Vert. Tu es du Cap-Vert?
À Cannes.
Bon, le Vincent, il laisse la place aux autres, là?
Vas-y.
Vas-y, Chris.
Oh là là.
Vas-y.
Bon, déjà, je ne comprends pas ce débat.
Oui.
Parce que le foot, c'est censé être, justement, le sport mondial.
Oui.
On est d'accord. Bon. Ça se joue avec très peu de choses, donc c'est accessible à tout le monde.
Donc,
dans ce sens-là, donnons la chance à tout le monde. Déjà, dans un premier temps. Deuxième temps, Denis me cite le Cap-Vert. Justement, ça tombe bien. Denis, tu me dis, je ne suis pas sûr que le Cap-Vert fasse quelque chose. Je ne suis pas sûr que Denis me cite un joueur de Cap-Vert.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui.
Ah, alors comment tu sais qu'ils sont bons ou pas?
Bon argument.
Ah, c'est vrai, tu as raison. Ouais.
Ce qui t'a mis là, Denis, quand même.
Parce que s'ils étaient bons, et bien ils seraient connus, tout simplement. Et on pourrait pas citer. Parce que les mecs que tu ne veux pas citer, c'est parce que c'est des pompes.
On laisse continuer.
Mais c'est normal que tu ne cites pas les pompes, tu fais partie. Non mais Vincent, sans déconner, tu me parles de pays exotiques.
Oui.
Il y a pas plus exotique qu'un Français dans un village au Cap-Vert.
Mais c'est pas la frappe. La Coupe du Monde, c'est pas la frappe. On vient pas visiter vos pays.
Mais non, mais c'est là où je vois que tu ne connais pas le foot. Tu as pas vu le parcours du Cap-Vert. Prends le parcours du Cap-Vert depuis les années 92. Tu verras qu'ils ont fait que progresser. S'ils en sont là aujourd'hui et qu'ils sont premiers de leur groupe, c'est qu'ils ont progressé.
Tu espères quoi sur la Coupe du Monde pour le Cap-Vert, Chris? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu espères quoi comme perf sur la Coupe du Monde?
Franchement, minimum 8e. Ils font la poule, ils font 8e, tu verras.
Le Cap-Vert qui a terminé devant le Cameroun en qualif de la Coupe du Monde.
Les gars, le Cameroun, ils sont passés à la trappe, le Cap-Vert est passé. Donc moi, je veux bien que vous méprisiez, parce que
moi, je
veux bien que vous méprisiez tout le monde.
J'ai vu le match.
Mais quand même, les gars, ils se la sont gagnés sur le terrain, quand même.
Malgré ça, ils sont pas légitimes au bout d'un moment. Alors vous savez quoi, c'est une coupe du monde fermée et on met toujours la France et l'Italie, même si elles sont pas là.
Si c'est tenu qu'à moi, je les ai vus jouer contre le Cameroun, c'est vrai, mais à ce niveau, pauvre niveau technique, j'interdirais le football au Cameroun.
Le Cameroun qui a des joueurs, dans des grands clubs européens.
Vas-y, cite-nous des joueurs
du Cameroun. Andissa, Mbeumo, Aboubakar.
Du Cap-Vert.
À Cap-Vert, moi je les connais pas.
Cap-Vert, tu connais pas. Et en plus de ça, sans aller dans la polémique, tu sais que le Cap-Vert te donne l'un des meilleurs latérales gauche à Paris.
Ouais.
Nuno Gomes.
Oui, mais
il te donne l'un des meilleurs joueurs au monde.
Non, mais là, c'est intéressant ce que dit notre.
Cristiano Ronaldo.
C'est intéressant ce que dit notre.
Qui est Cap-Verdien.
C'est intéressant ce que dit notre auditeur sur l'origine de certains joueurs et ça se produit un peu vous dans les chez les Iliens puisque la Nouvelle-Zélande il vampirise toutes les îles autour quand il y a une origine et du coup et maintenant puisque il y a des pays autour de la Nouvelle-Zélande qui sont devenus forts parce que les mecs partent plus en Nouvelle-Zélande, en tout cas un peu moins parce que les nations deviennent plus fortes et là c'est le cas quand tu as une nation qui fournit puisque le Cap-Vert c'est portugais donc quand tu fournis au Portugal des joueurs et que tu peux les garder chez toi parce que ta nation grandit, eh ben c'est une bonne chose aussi.
Et ta nation progresse.
Les bons joueurs ils partent pas au Portugal. Ça vous ennuie parce que vous n'êtes pas capable de le faire.
C'est pas le Cap-Vert, c'est le Cap-Vert.
Nous, on est fiers d'avoir un sport qui est joué dans le monde.
Un sport socialiste.
Voilà.
Il m'a donné envie de suivre le Cap Vert.
Mais ça, on aurait préféré le Cap Ferré.
Je vais te dire, tu vois, je vais te dire.
Moi, c'est Nanty.
Comment il s'appelle?
Qui méprise le peuple et le monde.
Comment il s'appelle?
Du Pilat.
Mais c'est supportable. Au départ, je voulais pas regarder le Cap Vert, mais maintenant, c'est décidé, je ne le regarderai jamais.
Je ne le regarderai jamais aussi.
Jamais je ne le regarderai.
Tu sais ce qu'il voudrait? Il voudrait le Pilat à la Coupe du Monde.
Ah, oui. Le Pilat contre le Cap Vert.
Il regarderait les matchs à la corniche.
Et contre l'île de Ré. On raconterait les rimes de
Osgore,
on aurait juré de, que Vincent allait dire ça. On n'avait pas besoin de le faire le débat, on savait déjà.
Sur ce thème-là, on le connaît par cœur. JO Pyro, JO d'hiver avec deux chances de titre olympique, on peut le dire, qui étaient nos invités.
Alexis Pinturo, Clément Noël, invité du Super Moscato Show. On a évidemment beaucoup parlé des JO qui arrivent.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show dans une demi-heure, retour du foot avec Rotten sans flamme. Juste avant ça, le Kikadi.
Exceptionnel
avec
niveau.
Un final en apothéose.
Scénario de dingue, des bras d'honneur, un homme à terre aussi. Enfin, c'était la folie. Rendez-vous tout de suite dans une dizaine de minutes, dans un quart d'heure, le Kikadi.
Mais d'abord, on part de ski, on parle des JO avec nos invités Alexis Pinturo et Clément Noël.
RMC, le Super Moscato Show.
Oui, 57 centièmes d'avance.
Come on !
Allez, t'as rendez-vous avec l'histoire là, Alexis.
Come on !
La victoire d'Alexis Pinturo.
C'est chapeau. Chapeau melon et bottes de cuivre, on dit.
C'est énorme ce qu'est en train de faire Clément Noël, qui est en train d'assommer Belverde.
Il n'est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
3 dixièmes de retard désormais pour Johannes Strolz à l'entrée du dernier mur.
Et tel le phénix, il ressort de sa boîte comme ça, il gagne.
Johannes Strolz qui en finit et Clément Noël est champion olympique.
Ça y est, c'est balé sans peler. Il y a deux.
La victoire d'Alexis Pinturo.
Putain, meilleur mec, putain de champion.
Clément Noël est champion olympique.
Puis c'est plus des gamins maintenant. Hein. Ce sont des jeunes adultes.
Oh non, des messieurs.
Le 3e champion olympique de l'histoire du slalom français.
Oui, c'est très bien. La victoire, c'est la chose la plus importante pour que la faites sauver ma
Breaking news.
3 médailles d'or mondiales et une médaille d'or olympique dans notre studio. Alexis Pinturo et Clément Noël. Salut les gars.
Salut.
Ça va.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être là.
Alexis est affûté. On dirait un rugbyman.
Ouais,
Alexis.
Costaud, ouais.
C'est surtout les t-shirts qu'ils nous ont donnés, ils sont trop petits.
Ouais,
ça doit être ça.
Non, mais tu fais beaucoup de muscu, non?
Oh, en tout cas, on essaye, il faut bien un minimum au moins, oui.
Alors, qui gagne au bras de fer entre vous deux, là? Clément,
Je pense qu'on ne se pose pas la question.
T'es sur les mêmes standards ou pas? Non, mais ça veut dire qu'il n'est pas obligé de faire tout ça.
Attention.
Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air de marcher, hein, ce qu'il fait.
Au bras de fer,
c'est. C'est pas les mêmes disciplines, quand même, aussi. Ouais, c'est aussi pour ça.
Et au bras de fer, c'est lui qui a la plus grande allonge. Il balaye l'autre.
Pierrot, je crois qu'Alexis a eu un petit souci, il s'est trompé de Lyon, non?
Ah, déjà.
Nous sommes à la Gaîté Lyrique.
RMC est quand même au courant.
C'est
parti où? Ah, j'apprendrai à tous les Parisiens qu'il y a deux théâtres de la Gaîté. Sauf qu'il y en a un, c'est Lyrique et l'autre.
Ah oui, c'est
pas Montparnasse.
Exactement.
Ah oui, mais c'est pas la Gaîté Lyrique. Gaîté Montparnasse, c'est à Montparnasse.
Et voilà, sauf qu'en bon campagnard, je me suis pointé à l'autre.
Bon, écoute, nous, on a Vincent Moscato qui est capable de ce genre de choses. Ça ne nous choque absolument pas.
Surtout quand je prends le métro.
Alexis.
Mais je peux me tromper de ligne.
La saison démarre le 25 octobre. Octobre à Solden en Autriche pour le ski alpin et les JO, c'est du 6 au 22 février à Milan. Cortina d'Ampezzo. Alexis, il faut que tu nous dises où tu en es, puisque à 34 ans, tu as un palmarès long comme le bras. Mais ces dernières saisons ne sont pas passées comme prévu. Tu reviens d'une grosse blessure, une fracture du plateau tibial. Tu as hésité à arrêter. Tu as 34 ans, tu es 3 fois champion du monde, tu as 3 médailles olympiques. Tu as décidé de continuer. Pour quelle raison ?
Tout simplement parce que je pense que j'ai jamais déjà connu de Jeux Olympiques en France, enfin en Europe. Donc quand on habite en France et qu'on va tout le temps en Asie, forcément ça laisse un goût un peu amer déjà dans un premier temps. Mes derniers Jeux Olympiques en plus c'était Pékin, donc dans un milieu clos pendant le Covid qui était très particulier. Et la dernière des raisons, c'est que je pense qu'en tant que sportif, on n'a jamais vraiment la volonté de finir sur un lit d'hôpital, notre carrière, et qu'on a plutôt à cœur de finir sur les deux pieds et de la meilleure des manières.
La descente, c'est fini, les disciplines de vitesse?
En tout cas, avec les blessures, forcément, il a fallu revoir les priorités. Là, en plus, il y a l'échéance des Jeux Olympiques, une saison qui est relativement courte, aussi une carrière qui est plutôt sur la fin que sur le début. Je vais pas me relancer dans une construction totale. On va aller à l'essentiel. On va essayer de miser là où j'ai toujours été le plus performant. Et donc, c'est se concentrer sur le géant.
Tu fais que le géant cette année ?
C'est ça.
Pas de slalom ?
Pas de slalom.
Pas de super G ?
Que du géant.
On rappelle aussi que même si tu es spécialisé dans les disciplines techniques, tu as été suffisamment fort dans les disciplines de vitesse pour gagner le classement général de la Coupe du Monde, ce qui n'est pas donné à tous les skieurs. Donc c'est pour ça aussi que tu vas tenter ce pari un peu dingue, en tout cas assez rare, hein, de monter sur la descente.
Oui, ça avait été l'objectif. Il y a eu des belles choses. D'ailleurs, j'ai réussi à faire des top 10 avant d'arriver à cette fameuse blessure. Et donc après, bon, bah maintenant, c'est... J'ai pas de regrets vis-à-vis de ça, mais c'est plus qu'il y a un moment, il y a des choix de vie, il y a des choix qui s'imposent aussi, et puis je pense qu'il faut avoir surtout la lucidité de faire ces choix-là.
C'est ta dernière saison ?
En tout cas, ce sera ma dernière ou l'avant-dernière, ça c'est certain.
Et t'en es où au point de vue ski ? T'as repris l'intégralité des entraînements ? T'es à fond partout ? T'as encore de quelques...
Physiquement, je suis vraiment bien. Je me sens bien. J'ai plus de douleur. J'ai plus besoin de compenser. Donc ça, c'est vraiment le beau compté. Après, sur les skis, j'ai besoin encore d'un peu de kilomètres. Ça va plutôt bien aussi. Ça se remet en place, mais j'ai besoin de pratiquer encore un peu plus. J'ai eu à peu près une vingtaine de jours sur les skis depuis mon retour de blessure. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est important, mais pas énorme. Il faut savoir qu'un athlète, quand on attaque au début de l'hiver, il a généralement autour d'une quarantaine de journées de ski. Et moi, je vais être un peu en dessous de ça, tout en sachant que je reviens d'un peu plus loin. Donc, il me faudrait un peu plus, mais ça va venir avec le temps. Et l'idée, c'est d'arriver plutôt avec un pic de forme en février.
Quand on prend un crash comme tu as pris, c'est, psychologiquement, pour revenir, c'est quand même compliqué. T'as appréhendé parce que c'est un vrai combat, quoi. C'est comme le chaos d'un boxeur ou un mec au rugby qui prend des traumatismes. Ça peut être dur de revenir. On peut justement hésiter à avoir des peurs.
On peut. D'ailleurs, j'en ai eu, hein, surtout l'année dernière, quand il y avait beaucoup de douleurs encore quand on pratique. Et je pense que tant que le corps n'est pas là à 100% et qu'il y a toujours des gènes, des douleurs, l'esprit ne peut pas être complètement libéré. Et aujourd'hui, je me sens bien plus à l'aise, peut-être aussi par rapport au fait que je me suis reconcentré sur le géant. Hein, ça a probablement aidé, il faut être aussi honnête. Ce qui fait que je prends un peu moins de risques. C'est une discipline qui est un peu moins risquée. Et tout ça m'aide, en tout cas au quotidien, pour cette reprise.
Tu dis, je vais faire 2 ans peut-être, et puis après je vais me garer. Quand on a fait les efforts de revenir du blessé, on peut pas finir, tu l'as dit, sur un lit d'hôpital. Mais si tu reviens justement après tous ces efforts dans la performance, tu pourras pas arrêter. Parce que l'effort, ben oui, on n'arrête pas sur une performance.
Parce que dans 4 ans, c'est vraiment en France.
C'est même chez moi.
Hein, ouais, bah oui.
Mais non, je pense que surtout après 2 années aussi compliquées que celles que j'ai vécues, je pense que la plus belle manière d'arrêter sa carrière, c'est tout au sommet. Et quand...
Oui, mais il y en a très peu qui le font.
Ouais, c'est ça, on est bien d'accord. Ouais, c'est un luxe.
Parce que là, c'est pas la première envie que t'as quand t'as la médaille d'arrêter.
Non, ça, on est bien d'accord. Super Moscato Show,
t'as que 34 ans, c'est pas non plus.
Non, c'est pas non plus.
Pas 42 ans, quoi. Voilà.
Alexis, quand t'es passé du géant à la descente, alors on s'est tous mis à commenter, hein, même ceux qui s'y connaissent pas, en se disant que peut-être t'allais modifier aussi physiquement pour pouvoir faire cette nouvelle discipline.
Bah, vous avez tous vite arrêté, du coup. Mais bon,
oui, on a assez vite arrêté. Mais moi, j'avais une petite question où je me projette déjà peut-être pour toi. C'est qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi, de ta carrière de sportif et d'athlète aujourd'hui, avec les médailles que t'as eues, mais les choix que t'as fait.
C'est une très bonne question. La trace que les gens ont envie de laisser de moi-même, c'est-à-dire que je pense qu'on est toujours mieux décrit par les autres que par soi-même. Moi, j'ai toujours fait les choix et j'ai toujours fait ma carrière avec ce qui m'animait, donc la performance, la motivation de la performance et pas forcément à tout le reste. Je me suis jamais forcément très beaucoup concentré sur ce que les autres pouvaient penser de moi-même. Mais c'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer à répondre à ce genre de questions.
Il te manque juste la médaille d'or olympique, hein, dans ton palmarès. Est-ce que ça a compté dans ton choix ? dans tout, oui, dans je... tous tes choix, le fait de faire que le géant, par exemple.
Oui, je pense qu'il faut quand même être honnête, de pas avoir eu l'or olympique, et c'est la seule chose qui me manque. Ça a pesé aussi dans la balance de se dire, il y a Milan Cortina, on va essayer de revenir et d'y jouer quelque chose.
Clément Noël, à tes côtés, qui écoute attentivement, qui lui a la médaille d'or olympique, et Clément qui sort d'une saison, je suppose, hein, un peu frustrante, t'étais parti à fond. Tu gagnes les deux premiers slaloms de la saison et puis il y a une blessure en géant à Val d'Isère qui a mis un stop à cette dynamique incroyable.
Ouais, frustrante un petit peu, mais c'était plutôt une belle saison dans la globalité. Ça aurait pu être une très belle saison, ça a juste été une belle saison. En tout cas, j'ai été performant, rapide, ce qui est bien. J'en demande pas beaucoup plus. J'ai été en contention pour gagner des courses à peu près toute la saison. La blessure, elle était vraiment, c'était une petite blessure qui m'a pas gêné très longtemps. Peut-être qu'elle fait un peu la différence à la fin, mais non, je suis quand même assez content de ma saison. J'ai gagné des courses, j'ai vécu des belles émotions, j'ai joué pour gagner une médaille au championnat du monde. Ça s'est pas fait, mais j'avais tout donné le jour-là. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas comme l'ensemble de ma carrière, mais c'était plutôt dans l'ensemble positif quand même.
Bon, tu dis, tu parles des championnats du monde, bon, comme une course qui s'est passée à peu près normalement, mais le scénario il est cruel. C'est-à-dire que t'es en tête à l'issue de la première manche et tu sors à la deuxième. De ça, tu retiens quoi? Tu retiens de la frustration ou tu te dis que t'étais tellement prêt d'être champion du monde que tout va bien?
Non, bah, j'étais pas prêt d'être champion du monde. En fait, j'avais gagné la première manche, il y a deux manches. Donc déjà, ça fait que 50% du boulot. Et encore, la première manche, elle est plus facile, entre guillemets, que la deuxième manche. Il y a moins de pression, il y a moins d'enjeux, entre guillemets. Donc, il me restait encore un bon bout de chemin à faire. Et j'ai pas réussi à le faire jusqu'au bout. Ça se joue à des millimètres, ça se joue à des petits détails, mais comme à peu près tout en sport de haut niveau. Donc j'ai pas de regret particulier. C'est déjà arrivé à Alexis aussi de gagner la première manche des championnats du monde et de sortir en deuxième manche.
Et c'est un peu ton ski aussi, non? De pas trop calculer.
Ouais, ça fait partie de mes qualités aussi, qui font que je prends des risques, j'essaye de skier au maximum, de pas trop calculer. Parfois, quand ça passe, ça peut faire des manches, des très bonnes manches, et des fois, ça passe pas. Alors, c'est un peu dommage que ça arrive le jour des championnats du monde en Autriche. Enfin, voilà, vraiment un bel événement. C'est un événement que j'avais coché et qui était l'objectif principal de la saison. J'ai pas l'impression d'être passé à côté, et donc c'est déjà ça.
Alors on parlait de la carrière d'Alexis. Toi, tu as l'occasion, puisque tu es champion olympique en titre, d'être le premier skieur français en alpin à conserver un titre. Il y a des skieurs alpins qui ont plusieurs médailles d'or, mais jamais personne n'a remporté deux fois de suite la même épreuve. Marielle Guetschel a fait Innsbruck et Grenoble, géant et slalom. Mais jamais le back-to-back, comme disent les basketteurs. Est-ce que c'est dans un coin de ta tête ou c'est le genre de choses dont on se fout complètement?
Non, bah, si c'est jamais arrivé, c'est peut-être parce que c'est pas si facile que ça. mais en tout cas, c'est pas dans un coin de ma tête. Ce qui est dans un coin de ma tête, c'est qu'on a une belle saison qui s'annonce devant nous, avec une belle échéance, une belle échéance en particulier qui sont les Jeux Olympiques. Je vais y arriver avec forcément un petit peu d'attente, un peu de pression, un petit peu d'engouement autour du fait que je vais défendre mon titre. Le titre que j'ai gagné à Pékin, je vais le garder quoi qu'il arrive pour toujours. Et c'est une nouvelle course. Alors voilà, est-ce qu'on peut dire, est-ce que j'aurai moins de pression parce que j'ai déjà gagné? Est-ce que j'en aurai plus parce que je serai plus attendu? Je sais pas. C'est une autre course. Et je sais qu'au fond de moi, je me sens bien physiquement, je skie bien à l'entraînement, donc j'ai les capacités de le faire. Alors après, entre avoir les capacités de le faire et le faire, il y a un grand gap. En tout cas, je vais essayer de me préparer pour ça.
On pense embrasser Madame Guetschel.
Oui, qui nous écoute.
Qui nous écoute.
Depuis la corde.
Et même malgré qu'à son âge, elle commence à piquer un peu. On l'embrasse. C'est important.
Au moins, tu sais faire plaisir à tes auditeurs et tes auditeurs.
On l'embrasse, elle nous écoute tout le temps.
Clément, le ski, c'est cool, mais le golf, ça progresse un peu?
Non, le golf, ça progresse pas des masses.
Ah ouais?
Non, c'est pas. J'ai pas le temps d'en faire suffisamment pour être bon, et je pense que j'ai bien choisi mon sport.
Ouais, t'es pas doué?
Je sais pas que je suis pas doué, je suis moyen, quoi. Mais bon, voilà, en golf, avant d'être bon, faut quand même être humble en golf. Je pense que c'est un sport.
Il m'arrive de jouer, mais moi, j'ai des mains en or.
Tous les trucs un peu faciles, tous les trucs de loisirs faciles, tu joues au paddle, au golf. Tous les trucs de vieux, tu te régales.
Le golf, c'est pas facile.
Non, le golf, c'est pas facile.
Ah non, mais
c'est pas facile.
Clément Noël avec 20 euros dans le système Moscato.
T'avais la sensation de cette année d'avoir du plaisir, tu skiais bien et tout. Mais est-ce que quand on a cette sensation, est-ce que ça fait des bons chronos, ça, de bien skier? Et d'avoir de bonnes sensations, pas toujours.
Parce que
des fois, tu skis comme un pied, mais tu y vas plus en brut, et puis tu peux avoir moins de sensations, moins de plaisir, et avoir des meilleurs chronos.
Ouais, mais moi, après, quand je dis je me fais plaisir, je kiffe bien, ça veut dire que je kiffe vite. Hein. Ouais, voilà, le reste, je m'en fous.
T'as voulu nous faire passer une autre.
Ouais, non. Le talent, c'est de skier vite, et quand je skie vite, je me sens bien, et donc voilà.
Alors, on accueille Max au 32-16 qui veut parler ski avec nos champions Alexis Pinturo et Clément Noël. Salut Max.
Ouais, ça va Max.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Max, tu nous appelles de Haute-Savoie, tu dois te régaler aujourd'hui.
T'es toujours porteur de passif.
Ouais, je me régale. J'allais sur un de mes chantiers et j'ai vu que Alexis Pinturo et Clément Noël étaient invités. Comme j'ai eu le plaisir d'entraîner Alexis quand il était petit au club des sports de Courchevel.
Quand il était petit.
Et puis comme t'as 3 mois de retard déjà dans le BTP, tu t'es dit bon, un jour de plus, un jour de moins, c'est pas dramatique.
De toute façon les gars, vous savez bien, hein, un plombier à l'heure, c'est pas un vrai plombier.
Donc, bah oui, bien sûr.
Et alors qu'est-ce que tu veux dire à Alexis alors?
Eh ben, je voulais lui passer un grand bonjour et puis que j'étais très content de sa carrière, de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et que j'espère qu'il va encore nous faire vibrer l'année prochaine, la saison qui arrive.
Non, tout simplement.
D'accord, c'est gentil.
Ouais. Merci Max. Bah oui.
Il était bon au ski ou quand il était petit ou c'était le pipe?
Non, il était pas super.
Non, c'est pas super, c'est ça. Ouais. Ah, comme on dit, plombier mon œil.
Non, il était déjà dans les clous quoi.
Il rigolait. Tu sentais qu'il allait pas être mauvais quoi.
Ouais, il y avait déjà ce petit truc en plus qui fait que après le chemin est toujours très long. Hein. Moi, je l'ai eu en U14, donc c'était les anciens Benjamin. Donc on sait déjà que il y a le petit truc en plus. Maintenant, faut en faire quelque chose derrière et lui, il l'a fait.
Très bien. Pense à remonter ton pantalon quand même, Max. Hein.
Ouais. Et range la clé à griffe.
Ça va, merci Max.
Et merci pour ton appel. Clément, il y a bien sûr le slalom, mais il y a une nouvelle discipline au programme des JO. C'est le combiné par équipe, donc un slalomeur, un descendeur. Est-ce que ça sera un objectif prioritaire pour toi?
Oui, enfin, ça me demande pas beaucoup plus d'efforts. Ça me demande de faire une course en plus, mais c'est sur ma discipline. Ça fait découvrir la piste et ça permet d'avoir une chance de médaille en plus. Ça a été introduit au championnat du monde cette année et tout le monde a trouvé ça cool. À la télé, c'était cool. Nous, c'était vraiment, vraiment sympa à faire. Ça ajoute une petite pression différente de que la performance dépende de deux personnes. Mais c'était hyper visuel et ça a donné une très belle course. Le problème, c'est que ça a fait un triplé suisse.
Ah oui.
Donc, on va essayer de remédier à ça.
Mais est-ce que ces disciplines-là, qui ne sont pas des disciplines traditionnelles de votre sport, vous procurent les mêmes émotions? Si tu es champion du monde ou champion olympique dans cette discipline-là, combinée par équipe, est-ce que tu es aussi heureux que si tu es champion olympique en slalom?
Ah, pour être honnête, je pense pas, mais je pense que ça se prend quand même. Mais après, on fait un sport individuel, donc on est peut-être un peu centré sur soi, j'en sais rien, mais par contre, ce qui est vraiment génial, c'est les émotions que procure le fait d'être en équipe. La performance en elle-même, peut-être qu'elle me rendrait moins fier, mais les émotions sur le coup de partager ça avec quelqu'un, je pense que c'est au moins aussi fort.
Et pour les prochains JO, là, qu'est-ce que vous allez choisir comme discipline, le judo ou le cyclo?
Alors ça, on en parle à 16h, puisqu'il est question de faire entrer le judo.
On n'a pas notre mot à dire, nous, là-dessus.
Les Jeux Olympiques d'hiver, mais vous en pensez quoi, d'ailleurs, vous? Alexis, vas-y.
Moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais bon, le judo, c'est différent. Pourquoi je dis que c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est à quel moment ce sport se pratique. Mm-hmm. Par exemple, le
judo, ça se pratique toute l'année. Mais voilà. Après, c'est vrai que le cross-country, c'est plus l'hiver.
Le cyclo-cross. Le cyclo-cross, c'est vrai que c'est plus l'hiver. Et donc là, ça peut avoir un peu plus de sens, étant donné que la pratique et l'essentiel des compétitions se passent en hiver. Ouais. Mais après, faut y trouver du sens, faut y trouver son public. Mais bon, après, faut pas se leurrer. Le CIO, ils veulent avoir de plus en plus de disciplines. Et il y a un moment, pour les JO d'été, ça rentre plus.
Et pour le beach volley?
Le beach volley, là, je pense que ça va tiquer. Ou alors, faut faire le snow volley. Voilà,
Clément, tu vas ajouter quelque chose?
Non, mais moi, je suis d'accord. En soi, le judo, ça me paraît un non-sens. Mais le cyclocross, c'est un sport qui se pratique l'hiver, qui se fait dans la boue, qui se fait dans des conditions extrêmes et hivernales.
Parfois la neige.
Parfois la neige. JO d'hiver veut pas dire Jeux Olympiques de la neige. Donc, à la limite, le cyclocross, ça me choquerait pas. Le judo, ça me paraît un peu bizarre. Surtout que c'est quand même un sport vraiment très bien établi sur les Jeux d'été. Donc.
Voilà, Alexis Pinturo, il finit par une nouvelle médaille olympique.
Voilà.
Fantastique.
Légende du sport français. Le Kikadi arrive. Et restez bien là, puisque c'est un Kikadi de très haute facture. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Vincent et Denis étaient absents. Ils avaient pris un jour de RTT, un vendredi. Mais on a convié Julien Beneteau.
C'est un peu le Masters. C'est les meilleurs de la saison.
Là, c'était le Masters.
Tout le monde a un peu plus qualifié.
Et ça s'est terminé en pugilat. C'est tout de suite.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, vous savez que le meilleur, c'est souvent le Kikadi. Parce que ça se finit ça. Par un moment très fort de l'émission. C'est très rare, un Kikadi où il ne se passe rien. Quand même.
C'est sûr, mais il se passe toujours quelque chose.
Alors là, celui qu'on vous a programmé
il est
aujourd'hui,
exceptionnel, celui-là.
Il est incroyable, c'est peut-être le meilleur de l'année, ou en tout cas de ce début de saison.
Alors les Vincent et Denis étaient absents, peut-être.
C'est peut-être la raison.
Il y a peut-être une raison du côté exceptionnel de ce Kikadi. C'est parti,
allez,
top jingle.
Allez, ça tout de suite.
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Une bonne ambiance dans ce studio avant un Kikadi qui promet, puisqu'il y a quand même du haut niveau aujourd'hui. Nous accueillons Eric et Didier. Salut les gars.
Bonjour.
Et en plus, il y a un cadeau exceptionnel puisque l'un d'entre vous va partir en week-end à Antibes, au Talazur d'Antibes, 4 étoiles. Alors, c'est Eric qui va choisir son équipe.
Je précise que je
c'est Stephen Brun qui a le premier point.
Je précise que je ne suis pas le décisionnaire de qui a la boule noire ou pas. D'accord.
Ah oui. Bah, c'est la boule noire qui choisit.
C'est la boule noire qui choisit. Je vous dirai pour ce que m'a dit la boule noire. Alors, Stephen, tu vas jouer avec Julien Beneteau. Il va y avoir un match incroyable.
Come on, baby.
Vous êtes
Eric, il faut être fort.
Time, baby. Je vais proposer au duo Pierre Dorian, Eric Dimeco. Alors, on me dit, la boule noire me dit, le sentiment boule noire, comme on dit, c'est comme sentiment terrain pour un arbitre rugby, c'est que ce serait le niveau le plus faible autour de la table.
Le moins bon.
Dans le haut niveau, c'est le moins bon.
Vous allez réveiller l'orgueil du champion.
C'est dur. Moi, je
on me dit ça. Moi, j'ai pas.
Vous allez réveiller l'orgueil du champion.
Pierrot, laisse faire.
Alors, Eric, le ruel sur
Eric, il bosse pas, mais quand il bosse, il botte le cul de tout le monde. Moi, je vous le dis. Donc, voilà.
Tu choisis quelle équipe, Eric, auditeur?
Fan de Stephen King, je vais prendre Stephen et Julien.
Bravo. Oui, parce qu'ils sont vilains comme dans les films de peur.
On voit pas que ça finisse en misérie tout ça.
Il y a trop de trash.
C'est là.
On rappelle que Stephen s'appelle Stephen. Tes parents adoraient Stephen King.
Ouais. Et que c'est loin, d'être le King.
C'est parce qu'il vient d'une famille de beaufs.
Non, parce que tu veux la vraie histoire. Mes deux frères s'appellent Joanne et Jérémy. Je vais m'appeler Julien comme Ben.
Et Julien, c'est pas
Julien Clerc.
Et Pierrot. C'était pour Julien. Non, Julien Lepers, c'était. Bien.
Oui.
9 minutes de Kikadi. Est-ce que oui, ils ont choisi.
Oui, ils ont choisi.
9 minutes. De Kikadi, c'est un bon niveau, je suis un peu excité là, ça change. qui a été nommé?
Non, c'est Trivial Poursuite qui commence, c'est pas grave, il faut se mettre dedans.
Directeur de course d'Ineos Grenadier.
Guérin Thomas.
Ouf. Vainqueur du tour.
Il va falloir être fort, Eric.
Là, les mecs, en réalité, ça fait deux jours, ils sont ouverts.
Mais qui joue leur vie.
J'ai été prévenu à peine hier, moi. Donc, tu vois,
c'est vrai. Ça fait 24
heures
que tu me
bats. 2-0.
Ta femme nous a dit que tu lui parlais plus et tout.
Ah, ça, ouais. Ouais. Ça
on y est là. Elle nous a même dit que tu as.
Pourquoi tu lui as parlé, toi?
Elle nous a dit que tu dormais dans la chambre d'à côté.
Il y a du trash talking de ouf là. BFM TV, qui a dit? Quand je rentre, je donne toutes les images à mon monteur et je fais un enregistrement d'une quinzaine de minutes.
Mathieu quoi?
Dans lequel David je raconte Hallyday. Mon voyage.
Orelsan.
Ensuite, il a la carte blanche pour me proposer les meilleures séquences.
Stéphane Echer.
C'est de la télé.
Ah, avec Lopez.
Maximi. Ah ouais. Antoine de Maximi, j'allais vous dire, il travaille chez nous. RMC Découverte, j'irai dormir chez les Gaulois. Nouvelle émission où il va en France, chez des Français. Il pourrait arriver chez toi, Stephen.
J'adore cette émission.
Il est très bon.
J'ai pas de mérite, j'ai dîné en face de lui il y a quelques mois. On a parlé que de ça.
C'est vrai?
Que de ça.
Et non, le bosseur. Il va
dormir chez toi, frère.
Non, mais tu sais quoi? Il paraît qu'il va dormir chez lui quand Pierrot est à la montagne pour les RMC Sport Games.
La semaine prochaine, il est chez Pierrot.
Ah, purée. C'est la minute de Kikadi.
Ça fait 2-1.
J'irai dormir chez vous quand vous n'êtes pas là, surtout. Allez.
C'est un boulot de Gisla.
C'était la grande spécialité directe pendant quelques années, ça,
d'ailleurs. Oui. Et toi, fais pas trop le beau parce qu'il paraît que tu as dormi quand même dans le canapé. Donc.
Arrêtez, c'est la vie privée, tout ça. Question en un coup.
Voilà.
Oui, mais il n'a pas voulu mettre le maillot.
Il est de retour ce week-end. Superman, Antoine Dupont. Révisons notre Antoine Dupont. Il faut réviser Antoine Dupont. Antoine Dupont, il y a deux possibilités en plus, d'accord? Quel entraîneur lui a offert son premier match en pro? Éliminé.
Il y a deux possibilités.
Travers. Éliminé. Elle est pas facile celle-là, mais bon, ça vous savez pas.
Comment il s'appelait à Castres, putain.
C'était un duo.
Eh oui, c'était la bite.
Eh ben non, éliminé. Vous aviez deux possibilités.
Carrère.
Serge Mias et David Darry Carrère.
Ah, j'ai envie de mourir.
Ouais, bravo, le 26...
Je sors Darry Carrère comme ça.
Le 26...
Là, il n'y a pas un demi-point.
Non, pas demi-point. 26 octobre 2014, c'était face au Leinster. Et après, la saison d'après, c'est Christophe Furios qui arrive.
Donc ça fait 2 à 1 toujours pour l'équipe Stephen, Julien et Eric.
Kikadi, ça a été un chemin difficile après ma dernière chute. Chris Froome. Oh là là, mais Pierrot, c'est bien, hein, il a plus d'équipe. Israël a pas renouvelé son
toi Pierrot là,
a pas renouvelé son contrat et du coup il cherche, il a plus de 40 ans, il cherche une équipe. Ça fait 2-2.
Faire du sport automobile.
Froum, ouais.
Ouais, pourquoi pas. Enchaîne.
5 minutes 40.
Je perds mes moyens, moi.
Une question auditeur.
Allez Eric.
Eric et Didier, c'est le retour de la Ligue 1. On adore ça ce soir. Énorme affiche. Metz Rennes. Vous suivez la Ligue 1 les gars, Eric et Didier?
Pas trop.
Aïe, mais donnez-moi le nom de l'entraîneur de Metz.
Oh, c'était prévu ça.
Ouais, voilà. Bon, 3, 2.
Vrazel
Zagin, j'aurais
pas.
Oui, Vrazel Zagin. Stéphane Le Mignon, voilà. Stéphane Le Mignon est l'entraîneur du FC Metz.
Le Mignon. Donc, on reste à 2-2 et il reste un peu plus de 4 minutes.
Et un peu plus de 4 minutes. Qui a dit on va s'attacher à remporter le plus de matchs possible et de tournois possible. On va se battre sur toutes les actions et au fur et à mesure.
Benoît Babi.
Oh, bravo.
Rugby à 7, le sélectionneur de l'équipe de France de rugby à 7 qui attaque la saison des Seven Series à Dubaï.
3-2 pour l'équipe Stephen, Julien, Eric.
Elle est belle celle-là.
BFM TV.
Allez, c'est pour toi, Eric.
Je vous en ai parlé cette semaine.
Ah, je sais pas du tout là. J'étais pas là.
Guy Savoy a été sacré meilleur restaurant du monde par quel guide?
Goemio?
Michelin? Non, il a dit le.
Non.
Il a dit le. Putain.
Attends,
c'est le truc The Line là, ou un truc comme ça là, comment ça s'appelle?
C'est en français, hein, c'est français.
Ouais. Tu l'as dit plus hier.
Le macaron. Vous n'avez pas. Ça s'appelle la liste. Ça date.
La liste, la ligne, je dis. Oui, je dis The Line. Je suis anglais. La liste.
C'est pas The Line. Ce sont des algorithmes. Ils compilent tous les guides, tous les critiques, etc. Et après, ils décident qui est le meilleur restaurant du monde.
Donc on reste à 3-2. Il reste 2045.
Putain, je l'avais de.
Vous l'avez, Eric.
Vous m'écoutez pas?
Non, mais je me souviens qu'il en a parlé hier.
The Line en français, c'est la ligne. C'est un
algorithme. Je sais.
Question en un coup.
Ouais, mais phonétiquement, j'étais pas loin.
Un coup. En Ligue des Champions. Au classement, qui est dernier?
Ajax Amsterdam.
J'ai dit aussi,
Pierrot. Alors, Pierrot, il a dit en premier quand même. Là, vous déconnez pas un peu quand même.
Non,
il a dit en premier.
C'est simultané.
Non, mais réécoutez, vous allez être surpris. Moi, je suis sûr de mon coup. Réécoute, Fredo. Réécoute. C'est trop important.
Je dis que Pierre part en premier, je peux débrancher.
On me dit qu'on est sur un simultané.
Très bien.
On me dit qu'on est sur un simultané.
Je vais bien l'accepter.
Pierrot, tu t'es fait fourrer.
Non, je pense pas.
Pierrot, encore, parce que si tu es pas avec moi, il te le donne. C'est parce que tu es avec moi.
C'est un joli.
Ça va très très loin.
Elle est belle, celle-là.
Bon, on en reste à 3.
Non, mais il y en a marre.
Elle est dure, celle-là. Attention. Elle est dure, celle-là. Mais je sais que vous êtes des bons champions. Et vous êtes des champions. Antoine Dupont, révisons notre Antoine Dupont.
Tu nous emmerdes, Tribal Poursuite.
Pas un coup. Il est devenu champion olympique le 7 juillet 2024. Ce jour-là, qui était son capitaine?
Grand Didier?
Non.
Comment il s'appelle déjà?
Je sais, c'est.
Grand Barca.
Non, c'est le blond là. Le blond là. Comment il s'appelle?
C'est initial si vous voulez.
Oui.
PR.
Ratier.
Vous pouvez donner son prénom si vous voulez.
Patrick.
Non, vas-y. Là c'est bon. Donne la réponse
Philippe.
Aussi.
Philippe.
Paul.
Restin. Restinier.
Ça commence par un R.
Racinier.
Roucas. Rouquet.
Paul
Ratier.
On arrête.
Aïe, aïe, aïe.
Paul Riva.
Riva.
Paulin Riva.
C'est Paulin.
Paul. Si tu dis Paulin, on le trouve. Si tu dis Paulin, on le trouve.
Plus j'écris Paulin.
Pour le prénom, il faut avoir un point.
Excusez-moi, j'ai été nono.
Mais tu es nul.
Allez, il reste 50 secondes, on a un point de retard, Eric.
Allez, c'est marqué. C'est du haut niveau. L'arbitre, il est pourri.
Allez, balance tous les noms que t'as sur ta feuille. Fais la technique du tank.
C'est parti.
Il est Paulin.
Qui a dit? Je ne suis plus un joueur international, donc je me concentre sur
Thomas Müller.
Oui,
Thomas Müller.
Oui,
allez, accélère.
World Caps, BFM TV.
3-3.
BFM, j'aime pas le BFM en dernier, c'est pas ça le Kikadi.
Cette semaine, à Paris, en plein tournage, quel acteur a rendu
Pierre Niné.
Pierre Niné.
C'est moi, Niné.
C'est pas fini.
C'est moi.
Ouais,
Fred, tu n'as aucun sens.
Ouais, la mise en scène,
c'est catastrophique.
Mais non, mais c'est catastrophique. Non, mais après, tu sais quoi, Pierrot? Après, il faut pas pleurer.
Chrono, mais quel âne.
Non, mais il faut pas pleurer si les gens ils partent et qu'ils écoutent pas, il faut pas pleurer avec le producteur qu'on a. Ça ne déconne. On fait un bon Kikadi, le mec, il est pas capable de faire une balle de match.
Il est 17h58 et 52.
Mais c'est pas possible
d'être bête pour moi.
Allez, le bête comme ça.
17h, bientôt 59. Mais
d'être bête comme ça, c'est pas possible.
Rotten sans flamme.
Bête à bouffer du foin, gros.
La Golden Carotte est là.
Un excellent producteur, Fred.
C'est bravo, Fred. Tu es un phénomène.
Heureusement, ils t'ont poudré.
Heureusement que tu es là, Fred. Franchement.
Sur la Golden. Oui, mais attends.
Et on révise pas notre Antoine Dupont. Ça y est, on a appris
déjà. Ouais, c'est bon, Dupont l'a révisé. Elle est dure, celle-là. C'est que c'est le hasard. Je vous promets, elle est très dure. D'accord. Si Mbappé, le 19 juillet 2026, soulève la Coupe du Monde, ce sera dans quel stade?
Los Angeles,
c'est à Washington. C'est le MetLife, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi, le MetLife.
Alors attendez, il y a la bonne réponse parce qu'on n'a rien entendu. Taisez-vous tous, c'était le MetLife Stadium à New York.
On va réécouter.
Pour l'instant, le sentiment de l'arbitre en régie, c'est Pierre Dorian. Mais on va réécouter.
Non, c'est moi.
On va
arrêter. Ah ben deux, c'est moi.
Et on vous donne des nouvelles.
Oui, voilà, bon. J'avais craqué, hein, je reconnais aisément. Hein. Alors, le verdict, parce que on l'a pas à l'antenne, le verdict.
C'est toi qui as la bonne réponse.
La bonne réponse m'a été attribuée, alors que, en réécoutant ça, on se rend compte qu'on ne comprend rien.
Le MetLife Stadium, ce sera la finale de la Coupe du Monde de foot aux États-Unis à New York.
Allez, c'est parti pour Rotten sans flamme, et nous, on revient lundi.
Lundi, bien sûr. Heures, petit week-end quand même, on n'est pas là demain et dimanche, hein, Pierrot.
RMC jusqu'à 18h,
le meilleur du Super Moscato Show.